Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Vous écoutez Radio Campus et Quoi de neuf doc, l'émission des jeunes chercheurs de Clermont-Ferrand, fait sa rentrée. Et oui, la rentrée, personne n'y échappe, même si je vous déconseille vivement de parler de rentrée à un doctorant, puisqu'il y a de fortes chances que celui-ci n'ait pas eu de vacances pendant l'été. Hein. C'était notamment mon cas, alors je ne sais pas si vous êtes aussi dans cette situation autour. Alors, Quoi de neuf doc, la cinquième saison est donc lancée. Vous pourrez nous retrouver chaque mois le deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. À l'animation, c'est moi-même, Olivier Carvin, doctorant en économie, et autour de moi, l'équipe que vous retrouverez à chaque émission. Aujourd'hui, dans un premier temps, vous entendrez Arnaud Persson, doctorant en mathématiques, qui reprend la fameuse chronique Vertige mathématique, lancée il y a 2 ans par Arthur Chassagnol. On verra si tu arriveras à nous donner autant de vertige qu'Arthur, notamment avec cette première chronique consacrée aux formes sphériques et circulaires dans la nature. Ensuite, vous entendrez la douce voix de Jules Barthélémy, doctorant en droit public, qui nous présente une nouvelle chronique intitulée Europolis. Donc si j'ai bien compris, il va nous faire voyager tous les mois. Et donc ce soir, il nous parlera du Portugal. Attention à ce qu'il va dire, car je sais qu'il y a une forte communauté portugaise à Clermont-Ferrand, donc surtout, faudrait pas les vexer, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Ensuite, c'est le retour de la chronique historique de l'émission, le 8 minutes avec. Comme son nom l'indique, chaque mois, nous passerons 8 minutes avec une jeune chercheuse ou un jeune chercheur de la région pour qu'elle ou il nous parle de ses recherches. Et aujourd'hui, nous accueillons Catherine Junot, doctorante en psychologie, qui nous parlera donc de ses travaux de thèse qui portent sur les bienfaits de la méditation. Enfin, comme à chaque émission, pour conclure, vous connaîtrez tous les bons plans sortis pour les jours et semaines à venir grâce à l'Inge Doc qui a été concocté ce mois-ci par Marine Dor, docteur en biologie. Et oui, comme quoi, il y a parfois des doctorants qui soutiennent. Mais d'abord, donc, c'est au tour d'Arnaud Persson pour Vertige mathématique.
L'intégrale de f x, c'est égal à
Vertige mathématique.
Bonjour. Alors, si je vous demande quel est le point commun entre le soleil, une toile d'araignée, l'onde d'un caillou jeté dans l'eau, une prune, un œuf, ou encore les rondes sorcières que forment les champignons. Vous allez bien sûr me dire, tous ces objets sont ronds. Mais maintenant, pourquoi ? Pourquoi la forme ronde ou les objets arrondis sont autant présents dans la nature ? En science, quand plusieurs objets ou phénomènes ont un trait en commun, on se doute que cela n'est pas dû totalement au hasard. Le fait d'être rond, donc, serait la conséquence d'une ou plusieurs propriétés sous-jacentes. En général, pour comprendre ça, on se tourne vers les mathématiques. Alors rassurez-vous, ça va rester simple, il n'y a pas besoin d'en connaître un rayon. En mathématiques, on ne parle pas de rond, mais plutôt de sphère ou de cercle. Pour définir un cercle, il suffit de considérer un point qui sera le centre et de prendre tous les points à une distance donnée, dite le rayon, de ce centre. Si on est sur une surface plane, on obtient un cercle. Si on est dans l'espace, on obtient une sphère. On peut aussi prendre les points à l'intérieur de ce cercle, on obtient donc un disque, et de même une boule si on est dans l'espace. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un cercle, quelles sont les propriétés de cet objet, et peut-on faire des liens avec ce que l'on observe dans la nature ? Alors, la première, la plus évidente, je dirais, qui découle directement de la définition, est que sur un cercle, si on se place au centre, aucune direction n'est privilégiée. Autrement dit, ce que l'on observe dans toutes les directions est la même chose. Une conséquence est que si un point émet quelque chose, mettons de l'énergie, sans privilégier de direction précise, alors cet objet modifie l'environnement de façon circulaire. Cela explique par exemple pourquoi les planètes sont rondes. La gravitation ne privilégie aucune direction, et la matière s'amasse de façon uniforme et forme une boule. C'est aussi ce qui se passe quand on jette un caillou dans l'eau. L'onde se déplace de façon circulaire, car l'onde de choc se propage uniformément dans toutes les directions. C'est encore la raison pour laquelle les rondes sorcières sont ronds. Un spore se pose à un endroit de la forêt, c'est le centre de notre cercle, et se développe radialement sans favoriser aucune direction. Le mycélium forme alors un disque pouvant parfois atteindre des centaines de mètres et les champignons poussent au bord de ce disque, donc en cercle. Comme quoi, tourner en rond dans les bois n'est peut-être pas une façon la plus mauvaise pour chercher les champignons. Mais cette propriété n'explique pas tout. Par exemple, pourquoi les œufs sont ronds, ou encore les toiles d'araignée. Le cercle et la sphère vérifient une autre propriété très intéressante. Elles sont, parmi toutes les formes géométriques, celles qui, à R, ou volume fixé, ont le plus petit périmètre, ou la plus petite surface. Autrement dit, la boule est la forme idéale pour emmagasiner du contenu tout en utilisant une quantité de matière minime pour la surface. Cette propriété, très intuitive, a été conjecturée dans l'Antiquité. La tradition fait remonter ce problème, dit problème isopérimétrique, à la fondation de Carthage par la reine Didon. Alors pour plus de précision, on peut se référer à l'Énéide, par exemple. Voilà. Cependant, les mathématiciens ont tourné en rond pendant plus de 2800 ans, sans pouvoir prouver ce théorème. Ce n'est qu'au XIXe siècle que Weierstrass et Minkowski arrivent enfin à établir une preuve de ce résultat. Alors voilà, voilà pourquoi inconsciemment on se met en boule pour lutter contre le froid. On minimise ainsi la surface de notre corps en contact avec l'air. La sélection naturelle s'effectue toujours selon le principe de la conception la plus efficace pour la dépense énergétique la plus faible. Ainsi la sphère joue un rôle essentiel dans la nature. C'est, entre autres, la raison pour laquelle l'araignée forme sa toile en succession de cercles. Cela lui permet, pour une quantité de fil donnée, de couvrir un maximum de surface, et donc d'attraper le plus d'insectes possible. De même, si les œufs sont ronds, c'est pour offrir le maximum de place à l'embryon, tout en réduisant la taille de l'orifice par lequel ils sont expulsés. Mais il est vrai que tous les œufs, et en particulier ceux des oiseaux, ne sont pas exactement ronds. Alors pourquoi ? Un objet rond roule. Oui, ça peut sembler bête, mais c'est vrai. La sphère est la forme géométrique dont le déplacement nécessite le moins d'énergie sur une surface plane. La forme ronde s'avère donc être une avancée majeure en matière de déplacement. Il n'est donc pas surprenant que la sélection naturelle ait conservé cette forme dans la nature. Les bousiers sont de petits coléoptères qui façonnent des boules dans des excréments des animaux. Ils les transportent ensuite jusque dans un abri où ils pondent des œufs à l'intérieur. La distance qu'ils ont à parcourir est parfois de plusieurs mètres, pour un poids 1000 fois supérieur au leur. Oui, 1000 fois. Ça peut paraître impressionnant, mais c'est la vérité, je ne suis pas en train de vous rouler. Ce n'est pas un hasard si le bousier façonne donc des boules rondes. Inconsciemment, il transporte un maximum de poids, tout en effectuant un minimum d'efforts. Bon, ils doivent quand même en baver des ronds de chapeau. Mais revenons-en à nos œufs. S'ils ne sont pas exactement ronds, c'est sans doute pour ne pas rouler facilement, et donc ne pas tomber du nid. A l'inverse, les reptiles, comme les tortues, pondent leurs œufs dans un trou. Et ils ne risquent pas, donc pas de chuter, et sont donc de ce fait absolument ronds. La forme ovale des œufs résulte donc d'un équilibre entre d'un côté optimiser le rapport volume sur surface, et de l'autre éviter que celui-ci roule trop. De même, les fruits d'un arbre sont souvent de forme arrondie. Cela résulte encore de plusieurs conditions. Un arbre a tout intérêt à avoir des fruits ronds. En effet, lorsque ces derniers tombent des branches, ils auront tendance à rouler et donc à s'éloigner de celui-ci. Ainsi, cela permet à l'arbre de coloniser différents milieux et surtout de ne pas faire concurrence à l'arbre mère. Mais ils n'ont pas non plus intérêt à se disperser trop. En colonisant une zone proche de l'arbre, ils empêchent qu'une autre espèce s'installe et prenne la place de l'arbre mère. Bref, enfin, vous l'aurez compris. Si la forme ronde se retrouve autant dans la nature, ce n'est pas un hasard. Il y a pour chaque cas une explication physique ou mathématique à cela. Les hommes se sont beaucoup inspirés de ce qu'a pu faire la nature. Et vous en conviendrez que beaucoup d'objets du quotidien sont de forme ronde. Je vous invite donc à chercher pourquoi.
Merci Arnaud pour cette chronique qui a été rondement menée. Alors je propose pour les prochaines fois qu'on prenne un petit jingle cymbale à chaque fois que tu fais un jeu de mots. Hein, comme ça. Ça animera la chronique, c'est pas mal, je trouve. D'accord. Vous aurez certainement reconnu la chanson qui vient de passer, il s'agissait de « Ça, c'est vraiment toi » du fameux groupe de rock français Téléphone. Et donc maintenant, nous allons faire un petit voyage direction Portugal, grâce à Jules Barthélémy. Alors bon, désolé Jules, hein, la virgule, elle n'est pas encore arrivée, donc on va faire ça un petit peu à la bouche. Improvisation, hein. Europolis.
Europolis. Alors, bonjour à toutes et à tous. En cette année d'élection européenne, cette chronique aura pour but de comprendre comment se déroule la répartition du pouvoir politique dans d'autres pays de l'Union européenne. Alors, je vous propose, pour commencer, de mettre les voiles vers le sud et d'aller à la rencontre d'un système politique qui ne nous dépaysera pas trop en Auvergne. Bienvenue au Portugal. En effet, pays bien connu et bien porté dans le cœur de nombre d'habitants de notre région, le Portugal est un État très trompeur. En effet, on serait tenté de le présenter comme l'État européen le plus à l'ouest du continent. Le Finistère de l'Europe. Erreur, puisque l'État le plus à l'ouest de l'Europe continentale n'est pas le Portugal, mais son voisin espagnol, dont la région de Galice va plus à l'ouest encore. Alors cet aspect trompeur, le retrouve-t-on lorsque l'on observe le système politique de nos amis portugais ? Le Portugal est-il institutionnellement complètement à l'ouest ? Comprenez, est-ce que le Portugal est une démocratie libérale fondée sur le principe majoritaire et le présidentialisme à l'image des États-Unis et de la France ? Bon alors, pour commencer, voici quelques données à prendre en compte. Tout d'abord, le Portugal est une république, la troisième république portugaise qui fait suite à la deuxième, qui ne correspondait pas vraiment à un régime démocratique. En effet, la Troisième République portugaise fait suite à la chute de l'Estado Novo, l'État nouveau instauré en 1933, alors que la dictature militaire avait déjà provoqué la fin de la Première République en 1926. La figure centrale de l'Estado Novo, António de Oliveira Salazar, grand ami d'Hitler et de Franco, sera président du Conseil des ministres, chef du gouvernement, de 1932 jusqu'en 1968. Sa mort tant attendue aura lieu 2 ans plus tard, en 1970. 4 ans après, éclate la révolution des œillets, qui provoque la fin de l'Estado Novo, véritable dictature militaire, tolérée à l'Ouest, car anticommuniste. Vous l'aurez compris, la Troisième République offre la promesse d'un État démocratique, de la fin de la concentration des pouvoirs entre les mains d'un parti unique, au chef unique, et surtout d'un régime débarrassé des réflexes nationalistes, machistes, racistes et j'en passe, de la dictature de Salazar. La nouvelle constitution est adoptée le 2 avril 1976. Son système politique a de quoi nous rappeler bien des choses. En effet, le président de la République portugaise est élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le chef du gouvernement, peut dissoudre l'Assemblée de la République, il est le chef suprême des armées, il signe les décrets d'application de la loi et peut donc s'opposer à celle-ci. Enfin, il ratifie les traités. Pas très exotique pour un Français, me direz-vous, mais patience. En effet, tout est dans le détail au Portugal, car la figure présidentielle n'est pas la même à Lisbonne qu'à Paris. Notre système français provoque la prééminence du président sur le reste du pouvoir exécutif, et le gouvernement est censé d'être d'autant plus stable qu'il est nommé par le président et que le mode de scrutin français garantit un parlement de la même couleur politique que le président qui a été élu un mois avant lui. Alors évidemment, quand on compare ces arguments avec la réalité d'aujourd'hui, force est de constater qu'il peut y avoir quelques bugs. Mais revenons au Portugal. Au Portugal, la figure centrale de l'exécutif, c'est le Premier ministre. C'est une conséquence historique de la dictature. Salazar fut président du Conseil, chef du gouvernement, alors qu'il y avait un président de la République fantoche qui servait seulement à masquer la nature personnelle du pouvoir de Salazar. Alors ça en découle une faiblesse symbolique et un retrait habituel du rôle du président de la République. La véritable élection centrale du système politique portugais, c'est donc l'élection législative. Sachant que le système législatif du Portugais est monocaméral, il n'y a donc pas de Sénat ou d'équivalent. Les 230 députés ne sont pas élus comme en France au suffrage majoritaire. Non, ils le sont au suffrage proportionnel, dit rationalisé, méthode d'onte pour les plus connaisseurs. Le Portugal est divisé en 22 circonscriptions électorales et les députés sont élus pour 4 ans à la proportionnelle dans chacune d'entre elles. Ce qui offre donc un avantage aux partis réalisant des scores élevés, sans pour autant annihiler l'existence de plus petits partis. Je vous explique. Par exemple, à Porto Alegre, seuls 2 députés sont élus à la proportionnelle, ce qui limite évidemment le nombre de partis qui seront représentés par les députés de Porto Alegre. Mais à l'inverse, à Lisbonne, ce sont 47 députés qui sont élus, ce qui offre plus de possibilités pour les petits partis d'entrer au Parlement. Conséquence de ce système électoral, les accords de coalition entre partis sont souvent nécessaires à la formation d'un gouvernement, sans pour autant provoquer de trop forte instabilité. Alors, petit aperçu des forces politiques en présence aujourd'hui à l'Assemblée portugaise. Attention, c'est subtil. On retrouve deux grands partis, les deux grands partis classiques du Portugal, un de gauche, un de droite. À gauche, le Parti socialiste, à droite, le Parti social-démocrate. Attention, c'est subtil. Qui, donc, malgré son nom, est une formation de droite. Pour la petite histoire, hein, c'est le parti qui a mené, c'est le parti d'où provient un certain José Manuel Barroso. Alors, le premier ministre est systématiquement issu soit du Parti socialiste, soit du Parti social-démocrate. S'ajoute à droite le Centre démocratique, qui est donc un parti conservateur, encore plus conservateur que les sociaux-démocrates, et qui est l'allié traditionnel donc des partis social-démocrates. À gauche, on retrouve la CDU, pas celle de Merkel, non. La Coligação Democrática Unitária. Merveilleux, hein. Union des écologistes et des communistes portugais, comme quoi c'est possible. Et à la CDU et au PS s'ajoute le Bloc de gauche, une sorte d'équivalent aux insoumis français, pour faire vite. Pour finir, n'oublions pas qu'il y a un élu et qu'il y a un unique député animaliste au Parlement portugais. L'élection de 2015... la dernière élection a lieu en 2015 et elle a marqué un tournant, ou plutôt une perpétuation majeure dans le système politique portugais. La coalition sortante entre le Parti social-démocrate et le Centre démocratique emporte plus de sièges que les socialistes, mais n'obtient pas la majorité des députés. De nombreuses pressions internes, et surtout européennes, poussent alors les socialistes à accepter une grande coalition à l'allemande, avec à sa tête le Premier ministre sortant, Pedro Passos Coelho, qui est issu du Parti social-démocrate, et ce, afin de perpétuer une politique de réduction des dépenses, maîtrise de la dette, topo habituel. C'est alors que, à l'instar des bipartismes américains, britanniques ou français, jusqu'à peu, eh bien, la logique de bloc s'est imposée face aux pressions et à la logique d'union des formations modérées qui est plus propre aux États d'Europe centrale. Contre toute attente, donc, les trois partis de gauche parviennent à s'entendre et à former un gouvernement qui va prendre le contre-pied des prescriptions austéritaires. Ce scénario peut en partie être attribué au mode de scrutin proportionnel, mais pas seulement. Il est aussi dû au rôle plus en retrait du président de la République, qui, bien qu'issu du Parti social-démocrate, a accepté de nommer un socialiste à la tête du gouvernement portugais. Parce qu'en réalité, il n'avait pas vraiment le choix. Et on peut aussi citer l'histoire du Portugal, qui apporte un surcroît d'attention de la part de la population sur l'élection parlementaire et le gouvernement. Alors le système politique portugais peut sembler bien à l'ouest, reposant sur un bipartisme, ou plutôt deux blocs parlementaires et l'élection au suffrage universel direct du chef de l'État. Seulement, encore une fois, ce serait oublier que d'autres systèmes, notamment le nôtre, sont bien moins modérés dans leur présidentialisme, ou que d'autres bipartismes, comme aux États-Unis, sont bien plus exclusifs et donc moins propices à la naissance de nouvelles formations politiques. Finalement donc, géographiquement comme institutionnellement, le Portugal n'est peut-être pas le plus à l'ouest si l'on y regarde de plus près.
Escrevendo, si vos que sentas que ser a te diría que no volta. Si vos escribim, te escribivo. Si vos que sentas que ser a te diría que no volta. Saudade, 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 essa minha terra sanita. Saudade, 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 essa minha terra sanita.
Santo Mê. Saudade, 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 desse minha terra saninclá. Saudade, 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 desse minha terra saninclá. Mas que sempre te esquecer, até o dia que não voltar. Se vou escrever, te escrever. Se vos que sempre te esquecer, até o dia que não voltar. Saudade, 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 é sim a terra sem enclau. Saudade, 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 é sim a terra saninclá. Saudade, 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 é sim a terra saninclá.
Et vous venez d'entendre Soda, interprétée par la regrettée Cesária Évora, la diva aux pieds nus, qui n'est pas portugaise mais capverdienne. Les paroles de la chanson font d'ailleurs référence à São Nicolau, une île du pays. Mais je trouvais que musicalement, c'était tout de même représentatif du Portugal. Alors d'ailleurs, nous quittons le Portugal immédiatement, direction cette fois-ci le Québec avec Catherine Junot pour le 8 minutes avec.
Huit minutes avec.
Alors, Catherine Junot, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, tu es doctorante en psychologie cognitive et sociale et ton projet de thèse porte sur les effets et les mécanismes cognitifs de la méditation pleine conscience sur les troubles alimentaires et l'obésité. Donc, on va revenir un peu après sur ton sujet de thèse, mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivée à faire une thèse en psychologie ?
Oui, Ben, je pense que à 4 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais faire une thèse. Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout.
Il y en a qui sont comme ça.
C'est vrai ?
Ouais,
non, pas moi. Non, j'ai fait mon cursus donc au Québec, je suis québécoise et je viens pas du tout du domaine de la psycho à la base, j'étais en cinéma. Et j'avais hâte de sortir de l'école le plus rapidement possible pour aller faire des films. Et c'est pas si facile que ça. Et donc, je me suis retrouvée à faire autre chose et je me suis dirigée vers la recherche, en fait. Donc, j'étais recherchiste et documentaliste à la télévision. Donc, c'est moi qui négociais des images. Par exemple, quand on regarde une émission de télé, il y a des extraits vidéo qui viennent de d'autres émissions de télé ou ailleurs dans le monde. Et donc, moi, je négociais les prix, je les achetais. Et je les cherchais pour les journalistes. Donc, c'est un genre de recherche d'images, quoi. Mmh. Et documentaliste, ça, c'est plutôt d'appuyer les journalistes pour les, dans le contenu, quoi. Donc, venir apporter un peu plus de contenu à ce qu'ils font. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je sais déjà que je voulais faire de la recherche, mais j'étais restée dans le milieu de la télé puis du cinéma. Et à côté de ça, j'avais des projets de films qui travaillent... Enfin, c'était des scénarios qui tournaient un peu autour de... des normes de beauté et de la pression sociale qu'on peut, enfin, qu'il peut y avoir sur les jeunes femmes surtout. C'était un peu la thématique récurrente dans mes scénarios. Et ben voilà, finalement, dans ce milieu de la télé, je faisais pas toujours ce qui me plaisait. Je travaillais pour des émissions People un peu, donc fallait que j'achète des images de Brad Pitt ou de je sais pas quoi. Donc il manquait un peu de contenu à mon goût.
Ouais, chercher du Brad Pitt, ça t'intéressait pas?
Non, ça a vite touché un peu le bout là. Et non, ça m'intéressait plus. Et puis surtout que c'est un métier super difficile où il faut tout le temps chercher un emploi, quoi. Enfin, j'étais tout le temps avec des CV à essayer de trouver autre chose. C'est pigiste un petit peu, donc.
Ouais.
Donc voilà, après, puis ben, je me suis dit que je prenais plaisir à faire de la recherche, chercher un peu plus de contenu, donc j'ai décidé que je voulais faire une thèse à ce moment-là quand même. Et bon, pour faire une thèse, il fallait que je reprenne toutes mes études. Donc j'ai commencé les études en première année d'université, parce que moi j'avais arrêté en première année au Québec. Et psycho, parce que j'avais déjà touché un petit peu à... J'avais déjà fait quelques cours de psycho et puis le cinéma, c'est près de la psychologie. Hein. On modèle des personnages, on les étudie, on essaye de leur donner du sens. Pour moi, ça ressemble un peu à la psychologie. Et donc, j'ai recommencé en première année avec l'objectif de faire une thèse. Donc, j'y suis enfin arrivée. Mais voilà, ça a pris 5 ans pour en arriver là.
D'accord. Donc, un parcours assez tortueux, donc.
Ouais.
Et donc, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, hein, tu parles des effets et mécanismes cognitifs de la méditation pleine conscience sur les troubles alimentaires et l'obésité. Donc, on va y aller étape par étape. Déjà, mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste la méditation pleine conscience ?
Mm-hmm. Bon, y a différents types de méditation, déjà. Donc, la pleine conscience, c'est un type de méditation. C'est le fait de vivre le moment présent, en fait, de porter son attention sur le moment présent. Ça existe dans les traditions bouddhistes depuis très 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 longtemps. Et c'est tout récemment que ça a été amené par un psychiatre américain en Occident qui lui pratiquait la méditation et le yoga et il s'est dit que ça pouvait aider ses patients en fait à diminuer le stress et la dépression. Et donc la méditation pleine conscience, lui, il le définit comme le fait de porter intentionnellement son attention sur les sensations internes, comme les pensées ou les odeurs, ou internes et externes, donc, et sans jugement. Donc, en fait, on regarde ce qui nous arrive au moment présent et on essaie de pas juger. Donc, si on entend, on porte à notre attention, par exemple, sur un son qui vient de l'extérieur, on n'essaie pas de trouver la cause, de se dire « Ah, le son du bruit du camion vient interrompre ma méditation, il vient me déranger. » On n'essaie pas on juge pas, finalement, ce son-là. On l'écoute, tout simplement. On a un détachement par rapport à ce qu'on ressent aussi.
Donc, c'est une pratique qu'on peut faire à tout moment. Hein. Donc,
c'est ça. C'est que ça peut être formel. On voit des gens qui sont assis en silence. On ne sait pas ce qu'ils font pendant des heures, des fois. Mais ça peut être vraiment aussi dans la vie quotidienne, même en mangeant. Il y a plein de... Enfin, l'idée, c'est dans le moment présent. Et les méditations où on est assis, on ne bouge pas, il y a beaucoup de travail cognitif qui se fait à ce moment-là parce qu'en fait, on ramène constamment notre attention, par exemple, sur la respiration. Donc, on peut méditer juste à... se concentrer sur notre respiration, les sensations dans notre nez, l'air qui rentre, qui est un peu plus froid, et quand elle ressort, qui est un peu plus chaud. Et on se rend compte que nos pensées, ils partent dans tous les sens. Là, on se met à stresser parce que demain, il y a quelque chose à rendre, tout ça. Et ben, on ramène notre attention sur notre respiration. Et donc, c'est un exercice de concentration très, très difficile. Et quand on s'exerce comme ça, assis, en silence, les yeux fermés, et ben après, dans la vie quotidienne, c'est plus facile de vivre le moment présent parce qu'on est capable de se concentrer sur ce qui nous arrive au moment présent. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a les deux pratiques, un peu celle de la vie quotidienne et celle des pratiques plus formelle. Voilà. Mmh.
D'accord. Et donc, cette pratique quotidienne, d'après toi, en tout cas, c'est les recherches que tu vas mener, que tu vas essayer de prouver, pourraient avoir un impact donc sur les troubles alimentaires et l'obésité. Mmh. Et du coup, par quel mécanisme est-ce que ça pourrait jouer là-dessus, positivement ?
Bah déjà, ce qui a été mesuré un peu pour l'instant, c'est que souvent on faisait méditer des gens, donc on les entraînait à la méditation et on mesurait avant, après différentes mesures. Et par exemple, chez des gens qui ont déjà des troubles alimentaires, donc surtout avec la boulimie, donc quand il y a des gens qui ont des compulsions alimentaires, qui font des crises, donc qui mangent beaucoup de calories en très peu de temps, on a montré qu'en fait la pratique de la méditation, ça permettait de diminuer ces crises-là. Pour l'anorexie, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même des effets positifs sur l'anorexie qui permettent de diminuer les symptômes de l'anorexie. Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la prévention, en fait. Parce que comme on voit que la méditation peut fonctionner pour diminuer les troubles, je me suis demandé si la méditation pouvait fonctionner pour les prévenir, donc en amont. Et il y a un élément essentiel qui va être mis en place, qui va être créé finalement par la pratique de la méditation, c'est ce que les bouddhistes appellent l'équanimité. Et c'est selon ma thèse, c'est ce qu'on va essayer de démontrer ou enfin de tester, c'est que l'équanimité peut permettre de prévenir les troubles alimentaires, autant l'obésité, et même d'avoir des choses positives sur la régulation émotionnelle en général.
Alors, est-ce que tu peux juste préciser du coup ce que c'est l'équanimité ? Parce que moi, personnellement, c'était la première fois que j'entends ce terme.
Ouais, mais je pense qu'en plus, c'est un terme en français, ça n'existe pas vraiment, donc c'est plutôt, ça vient de l'anglais.
Word, quand j'ai écrit ton sujet, il a pas tiqué, hein, il a pas trouvé de faute, donc il reconnaissait le mot quand même.
C'est positif pour la suite de mes travaux, alors. Mais l'équanimité, on peut le définir de différentes manières. C'est un peu les questions que je me pose dans ma tête, c'est comment le définir aussi. Mais c'est finalement le fait d'avoir un état mental balancé en fonction des stimuli qui nous arrivent. Donc, en fait, de les percevoir de manière égale. Donc, si, par exemple, on est face à un gâteau au chocolat, on sait qu'on aime le gâteau au chocolat, on peut y goûter, mais on ne va pas être très excité par le gâteau au chocolat ou par le fait qu'on ressente du plaisir à ce moment-là. On ne va pas avoir envie d'en reprendre nécessairement. C'est-à-dire que on est capable de dire que le gâteau au chocolat est bon, mais ça ne va pas créer en nous une excitation qui, après, peut entraîner des conséquences négatives. Voilà. Et pareil avec ce qui est négatif. Ce qui est, par exemple, si on essaye d'éviter... ça peut être aussi un aliment qu'on n'aime pas du tout, qu'on veut éviter, qu'on ne veut même pas le sentir dès que ça s'approche de nous, on veut que ça s'éloigne. Et bien, en fait, l'équanimité, c'est le fait de plutôt... Donc, sans juger l'aliment, on est quand même capable de dire que c'est un aliment qu'on n'apprécie pas, mais on ne va pas chercher à l'éviter. Donc notre comportement, en fait, ne va pas être basé sur notre évaluation hédonique, affective, finalement, des stimuli. Et donc l'équanimité, c'est le fait d'être un peu égal, peu importe ce qui arrive. Ce n'est pas non plus de l'indifférence, parce que justement, on est quand même capable de dire que le gâteau au chocolat, on aime ça, que les choux de Bruxelles, on n'aime pas trop ça. Mais c'est finalement une non-réactivité face au fait d'aimer ça ou pas. Voilà.
Ça semble un peu compliqué à comprendre, parce que c'est vrai que si on est, a priori, si on est capable de dire qu'on aime telle ou telle chose, moi personnellement, la seule chose qui va me faire que je ne vais pas foncer dessus, c'est le prix, hein, par exemple. C'est la seule chose qui va me freiner.
Ouais. Mais ce qui est intéressant avec l'équanimité, en plus, c'est que ça pourrait permettre de laisser passer des valeurs ou des buts à long terme. C'est-à-dire que dans les régimes, c'est sûr que c'est toujours important parce que les régimes, ça marche presque jamais. Souvent, on reprend le poids ou bien on ne réussit pas à rester motivé. Et en fait, c'est que y a plein de choses qui rentrent en jeu quand on est face au gâteau et on oublie ou enfin, on n'est pas capable d'agir en fonction de notre but à long terme, qui est par exemple la perte de poids ou... Et donc l'équanimité, ça pourrait permettre de quand même laisser passer des valeurs qui sont ancrées profondément en nous et auxquelles on veut adhérer, auxquelles on veut avoir des comportements qui sont en accord avec, avec ces valeurs-là. Après, ça, c'est une piste, mais voilà.
Et donc, pour résumer, toi, tu vas chercher à montrer que la pratique à long terme de la méditation pleine conscience va jouer sur l'équanimité qui elle-même va permettre du coup de réduire les troubles alimentaires et l'obésité, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. Et en fait, on sait même pas, les bouddhistes disent que la méditation peut entraîner de l'équanimité, mais comme c'est un nouveau champ de recherche, il faut déjà prouver ça. Donc, il faut déjà prouver le lien. Après, on peut être équanime sans pratiquer de la méditation aussi. C'est tout à fait possible. C'est une qualité, finalement. Et après, bah, il faut que je vois comment l'équanimité peut être en lien avec les aliments, mais même aussi la régulation émotionnelle tout court. Parce que ça veut dire qu'en fait, l'équanimité, c'est qu'on n'est pas stressé. Moins stressé, on peut rester calme, même dans une situation qui est difficile pour nous. Donc, c'est en lien vraiment avec les émotions en général aussi, ouais.
Et donc, en psychologie, je sais qu'on réalise des expériences. Et toi, tu vas les réaliser sur qui ? Du coup, est-ce que tu vas suivre des patients qui ont des troubles de l'alimentation et les suivre en leur proposant un programme de méditation pleine conscience, par exemple ? Est-ce que c'est un peu ça l'idée ?
Non, justement, c'est compliqué déjà aussi de trouver ces participants-là. Et moi, ouais. je m'en échappe parce que je travaille sur la prévention. Donc, et puis je travaille aussi même des fois sur l'insatisfaction corporelle avec l'équanimité. Et bah, ça touche 80% des étudiantes. En psycho, mais dans d'autres domaines aussi. Et donc, le but, c'est de prévenir que le fait d'être insatisfaite de son corps se transforme en régime très, très extrême et qui peut mener à des troubles alimentaires ou à l'obésité aussi. Donc, en fait, les participants, c'est souvent, comme dans beaucoup d'études en psycho, c'est les étudiants de psycho qu'on utilise. Et après, j'ouvre aussi à des méditants. Parce que je veux voir si l'équanimité, c'est en lien avec la méditation. Donc, ouais. Je travaille avec des gens qui ont plusieurs années d'expérience en méditation. Et puis, des étudiants, même s'ils n'ont pas de risque de troubles alimentaires, mais que je les fais pratiquer la méditation. Je vois avant-après s'il y a des différences.
D'accord. Et juste une dernière question, très rapidement. J'avais dit qu'on se dirigeait vers le Québec. Je pense que les auditeurs, auditrices ont entendu que tu avais un léger accent québécois.
Un accent québécois en rubé, là.
Et donc, je me demandais simplement, est-ce que le fait que tu viennes en France, c'est un lien avec la recherche, justement ? Est-ce que tu trouvais pas de sujet de thèse là-dessus au Québec ? Il a fallu venir à Clermont-Ferrand pour trouver ça ?
Pas pour ça, non. Ah. Non, je suis arrivée il y a 10 ans maintenant en France et je pense que je trouvais Montréal un peu petit.
Du coup, t'es venue à Clermont-Ferrand.
Non, je suis passée par Paris avant. Non, je suis passée par Paris, puis c'est là que j'ai rencontré un Auvergnat. Donc là, après, on est venu à Clermont-Ferrand. Mais je pense que j'aimerais bien y retourner au Québec parce que les recherches en psycho sont très développées aussi. Il se passe beaucoup de choses là-dessus. Et puis finalement, Montréal, c'est petit, mais c'est une très belle communauté aussi. À Clermont, c'est plaisant, hein, c'est bien, mais c'est petit. Là, c'est très, très petit, en effet.
Oh, t'inquiète pas, on ne va pas se fâcher pour ça. Bien, je te remercie. On peut passer à la musique.
Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose. C'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison pour de bon. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Y'a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Mais tu me connais, je suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait bien de la peine de voir partir ma mignonne. Simon, le mois passé, savait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser, c'est un bon body. Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur ou ben si t'as pris le dessus? C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Anyway, je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne.
Et vous venez d'entendre les Cowboys Fringants, fameux groupe québécois qui interprétait Tone d'automne, chanson qui illustre donc bien la période actuelle, l'automne, les feuilles qui tombent, la pluie, le froid, le rhume aussi pour certains. Mais est-ce que c'est seulement ça, l'automne ? Non, on est d'accord, hein, y a aussi plein de choses cool qui se passent en automne et c'est Marine Dore qui va nous en parler avec l'agendoc.
L'agenda du doctorant, c'est l'agendoc.
Bonsoir à tous, donc ce mois d'octobre nous réserve plein de petites choses sympas à découvrir, donc si vous vous ennuyez, c'est que vous l'avez vraiment cherché. Tout d'abord, si vous écoutez cette émission en direct, c'est que vous avez loupé la soirée Pint of Science pour l'avant-première de l'épisode 3 des chercheurs se mettent à nu, dont la star n'est autre que Arnaud, notre chroniqueur mathématique. Pas de panique, à partir de demain, vous pouvez retrouver ce nouvel épisode ainsi que les anciens sur les chaînes YouTube de Doctovergne et d'AstuSciences. À partir d'aujourd'hui, commence également Clermont Fête ses étudiants. Donc ce soir, vous retrouverez la fameuse Ice Party. Donc mettez vos patins et allez glisser sur des rythmes endiablés. Petit plus, si vous venez déguisé, l'entrée vous est offerte. Demain, rendez-vous à la coopérative de mai pour la soirée tremplin Sunshots. Et petite nouveauté cette année, vendredi, enfilez votre tenue de détective, pour le jeu de piste géant dans Clermont-Ferrand. Et cette semaine, si vous êtes passé à côté des animations pour la fête de la science, ne vous inquiétez pas, il reste plein de petites choses à découvrir jusqu'à la fin de la semaine. Entre le village des sciences demain, les improbables mélanges présents sur les marchés mais également samedi au centre Jaude de 2, les cours de sciences et j'en passe, le petit scientifique qui sommeille en vous trouvera son compte. Vous pouvez retrouver tout ce joli petit programme sur le site de la fête de la science. Et si depuis février vous n'avez pas pu vous y rendre, vous avez jusqu'au 4 novembre pour découvrir l'exposition Matissime au muséum Henri Lecoq. Expérimentation, observation et logique sont au programme. À partir de vendredi jusqu'à la fin du mois, ne loupez pas non plus la 21e édition des Transurbaines. Venez découvrir ou redécouvrir la culture hip-hop dans Clermont et son agglomération. Échanges, rencontres et spectacles seront au rendez-vous. Clermont, ville accueillante, c'est ce que Effervescence, confirme. Jusqu'à la fin de la semaine, c'est le rendez-vous automnal avec comme mot d'ordre hospitalité. Cela fait également écho à l'exposition « Migration Clermontois venu d'ailleurs » qui continue jusqu'à décembre et qui propose ce mois-ci plusieurs activités comme des projections de films, des expositions, mais également des conférences. Toutes les infos et programmes sont sur leur site. Le Salon des vins et des vignerons indépendants de France ravira du 19 au 21 octobre les œnologues confirmés et amateurs au Polydôme. Également, ce 20 octobre, à partir de 13h30, aura lieu la conférence TEDx Clermont, Kintsugi, le temps de la résilience à l'Opéra Théâtre. Si vous n'avez pas réservé, malheureusement, vous ne pourrez pas le voir en réel, puisque cet événement affiche complet. Mais vous pourrez le regarder de votre salon, sur votre canapé bien au chaud, puisqu'une retransmission en direct est prévue. En parallèle, de 14h à minuit, vous pourrez aller vous affronter au travers d'une multitude de jeux à la Maison du Peuple pour la 9e nuit du jeu. Adresse, casse-tête, coopération seront les maîtres mots de cet événement. Et ce même week-end comblera aussi les amateurs de course, puisque cette année, Courir à Clermont et le Marathon des Puits deviennent Clermont Week-end Course. Donc vous aurez le choix entre 5, 10, 21 et un peu plus de 42 km pour vous dégourdir les gambettes. Les mélomanes ne seront pas en reste également, puisque la coopérative de mai nous offre un beau petit programme ce mois-ci. Venez découvrir des jeunes talents, pour la dernière date des Inouïs du printemps de Bourges le 12 octobre. Si vous aimez le jazz et l'électro, Electro Deluxe sera présent le 16 octobre. Et le lendemain, venez également écouter pour la dernière fois Heure, que nous allons diffuser juste après, puisque c'est leur dernière tournée. Le 19 octobre, ce sera également le retour, après deux ans, d'abstinence des Nuits Zébrées de Radio Nova. N'oubliez pas de télécharger votre invitation, c'est gratuit. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site de la COPE. Et côté Zénith, ce sont les Toulousains Big Flo et Oli qui seront à l'honneur le 19 octobre. Et qui dit octobre rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Si vous ne faisiez pas partie des 7000 participantes de la course Clermont-Rose qui a remplacé la Clermontoise le week-end dernier, d'autres événements sont à venir ce mois-ci, proposés par le Centre Jean Perrin, la Ligue contre le cancer et d'autres associations. Mais c'est messieurs dans tout ça. Eh bien, ne vous inquiétez pas, puisque début novembre commence Movember en faveur de la lutte contre les cancers masculins. Alors abandonnez votre rasoir et laissez-vous pousser la moustache pour récolter des dons en novembre. Et pour les étudiants, chercheurs et personnels soignants en oncologie, le CLARA, Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, organise les Oncorials le 19 et 20 octobre à Royat. Vous pourrez découvrir différents ateliers et conférences, alors n'oubliez pas de vous inscrire, c'est gratuit. Et n'oubliez pas, le premier mercredi de novembre, votre soirée mensuelle d'Octovert revient. Attention, cette année, changement de lieu, c'est au Gavroche que ça se passe. Donc venez partager un verre avec nous pour bien débuter le mois de novembre.
All I need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. Start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources. And then the kisses, following courses. And again kisses, following courses. Like a butterfly effect, one hit of a cigarette, mistakes don't regret.
facts. One hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket. The love don't spend. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes.
Et vous venez donc d'entendre l'excellent 5 minutes du groupe Heure, qui est donc effectivement amené à disparaître. Merci Marine, merci à tout le monde. Je rajouterai simplement une toute petite information pour l'agendoc. Si vous ne savez pas quoi faire ce samedi 13 octobre, je vous propose de vous mobiliser pour le climat. Un rassemblement citoyen autogéré, donc non politique, pour le climat est organisé dans plusieurs grandes villes de France et notamment à Clermont-Ferrand. L'événement débutera à partir de 14h, place Jaude. J'espère donc vous y retrouver nombreux. En attendant, je vous dis au revoir, puisque c'est déjà la fin de l'émission. Et oui, ça passe vite. Si vous voulez réécouter l'émission et que ça vous a, ou que ça vous a donné envie d'écouter les émissions des saisons précédentes, vous pouvez le faire en podcast, disponible sur le site internet de Radio Campus. Vous pouvez aussi... vous ne pouvez... pas visionner les chroniques, en tout cas pour cette émission, pour les émissions précédentes, hein, sur le compte YouTube de Docto Vergne, et elles sont aussi régulièrement partagées sur le Facebook de l'association. Vous pouvez regarder dans l'historique de la page Facebook de l'asso. Je vous invite aussi à aller vous renseigner sur les autres projets organisés par l'association Docto Vergne qui réalise cette émission sur le site internet de l'association www.doctovergne.fr. Évidemment, le mois prochain, vous retrouverez toute l'équipe de Quad 9 Doc avec, je l'espère, une chronique supplémentaire afin de compléter l'équipe. Ah, Gianluca, si tu nous entends, un petit message pour toi. D'ici là, toute l'équipe de Quad 9 Doc vous souhaite une bonne soirée et un bon mois d'octobre.
The pond is full of sharks, but you're wearing a suit. The suit is made of chicken skin, so you'll survive the